L'atelier littéraire. Aujourd'hui, Sartre, écrit autobiographique. L'atelier littéraire, ce soir autour de la table, Jean-François Louette, professeur à la Sorbonne, qui a dirigé la publication du volume de la Pléiade consacré principalement aux mots, au carnet de la drôle de guerre et à tous les autres écrits autobiographiques de Sartre. Juliette Simon, qui est chercheure et directrice adjointe des temps modernes et qui, dans ce volume, a été chargée principalement des carnets de la drôle de guerre, 39-40, et puis de tout ce qui s'y rattache. Thomas Clair, qui est écrivain et critique, et Jean-Pierre Salgas, qui est enseignant et critique. Jean-François Louette, à l'orée de ce volume, vous proposez une introduction tout à fait passionnante en montrant qu'il y a un paradoxe de l'écriture, disons, personnelle, puisqu'on ne va pas dire intime, chez Sartre. Alors que les mots sont aujourd'hui reconnus comme l'un de ses plus beaux textes, il faut sans doute les comprendre et comprendre d'autres écrits personnels en prenant en compte le fait que toute la formation, toute l'éducation, toutes les représentations du jeune Sartre le porte à se méfier et à mépriser l'écriture dite de la vie intérieure, entre guillemets, du journal, des mémoires. Vous dites qu'il a trois haines, Sartre, trois haines constantes et cohérentes entre elles, que sont Barrès, le culte du moi, Amiel et son fameux journal intime, et Proust. Et donc, au fond, il écrit contre ces gens-là, d'abord.
Oui, sur le plan littéraire, ce sont les trois cibles, trois intimistes, si l'on veut. Et donc, j'ai proposé de décrire le projet de Sartre comme un projet extime. Ça n'est d'ailleurs pas un mot que j'invente, c'est un mot que je reprends à un grand critique de l'entre-deux-guerres, Albert Thibaudet, et qui essaie de désigner cette méfiance de Sartre vis-à-vis de l'écriture intime, cette méfiance vis-à-vis de la complaisance à soi que peut charrier l'écriture personnelle. Et dans le détail, j'ai tenté d'isoler et de repérer toute une série de dispositifs qu'on pourrait dire de protection contre les complaisances de l'écriture intime. Mais c'est finalement une question d'éducation, comme vous le disiez, c'est aussi un peu une question d'époque pour les mots, en tout cas, parce que Les mots est un livre écrit à un moment où Sartre est devenu très hostile à la bourgeoisie, à la petite bourgeoisie, à la grande bourgeoisie, à un écrivain comme Gide qui lui paraît le parangon de l'individualisme bourgeois. C'est l'époque aussi, je ne sais pas moi, 1953, c'est le moment où Sartre commence à écrire Les mots, c'est l'année où paraît en France une réédition de Ma vie de Trotsky, chez Gallimard. Comment ?
C'est la mort de Staline.
Oui, mais c'est pas Ma vie de Staline, c'est Ma vie de Trotsky quand même. Hein. Et puis c'est aussi l'année où paraît d'Arthur Kessler La corde raide, c'est-à-dire une espèce d'autobiographie politique qui marque l'adieu au communisme. Et Sartre veut faire un peu, me semble-t-il, l'équivalent, c'est-à-dire une autobiographie avec les mots qui marquerait l'adieu à la fois, non pas dans le communisme, mais dans la littérature.
Mais du coup, cette sorte, disons, de dédain, a priori, ou de principe pour l'intime, ça explique très très bien, je trouve, l'ironie, par exemple, la posture du narrateur dans les mots. Cette sorte d'ironie qui, vous dites, c'est vrai, fait le charme des mots. On comprend beaucoup mieux, au fond, cette posture de principe.
Oui, tout à fait. C'est une posture de principe. C'est le ton dominant du livre. Hein. Et finalement, c'est un ton qui a au moins deux enjeux. Le premier, c'est de mettre à distance un certain nombre de langages, de formules toutes faites que Sartre a reçues de son milieu, c'est-à-dire de son grand-père, de sa grand-mère, des vieilles dames qui étaient autour de sa grand-mère. Celles qui disent, par exemple, « Ah, cette pauvre Anne-Marie, elle a épousé un homme qui ne lui a pas fait d'usage. » Vous voyez ? Donc d'une part, mettre à distance ces éléments du langage bourgeois, d'autre part, mettre à distance l'enfant qu'il a été et créer oui, un écart entre le narrateur et le jeune Poulou.
Et il le fait quand même, c'est-à-dire il fait quand même une écriture de soi, alors vous dites de façon oblique, malgré ce dédain, ce refus a priori, il le fait, mais d'une façon telle qu'il le fait sans le faire.
Si on veut, oui, il le fait sans le faire. Mais en même temps, bon, il faut aussi, je crois, être bien conscient du fait qu'il avait plaisir à le faire. Je pense quand même qu'il faut pas, renverser cette méfiance à l'égard de l'écriture intime en un absolu dédain ou en une haine absolue. Il y a aussi toujours une forme de plaisir à parler de soi, de plaisir chez Sartre sensible dans les mots, je crois, à retrouver à la fois sa mère Anne-Marie et puis l'enfant qu'il a été.
Jean-Pierre Stelgas.
Oui, enfin, ce que vous dites est évidemment tout à fait juste, mais je rajouterais deux choses qui, me semble-t-il, permettent de tempérer ça. C'est que, à la fois, il y a effectivement ce refus de l'intime que vous référez à Thibaudet, et on le voit très très bien, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans le premier carnet de la drôle de guerre, puisqu'il est accompagné de la lecture de Gide, et il se regarde dans le miroir de Gide en permanence. Mais d'un autre côté, toute l'œuvre de Sartre, et pas seulement les portraits de Nisan et de Merleau-Ponty qui sont reproduits dans ce même volume, ne cesse de poser la question de méthode, que peut-on savoir d'un homme aujourd'hui ? Et si on pose la question que peut-on savoir d'un homme aujourd'hui, bon, Sartre l'a posé à propos, j'ai fait comme ça la liste, Baudelaire, Genet, Mallarmé, Tintoret, Flaubert, Gide, André Gorz, Nisan, Camus, Merleau, bon. Et donc lui-même. Donc, je veux dire, je pense que ça complexifie la question, parce qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie, qu'est-ce que c'est, comment on peut raconter une vie. Et dès le début, c'est vraiment la grande question, me semble-t-il, de Sartre. Alors, je dis dès le début, parce que l'autre chose qu'il faut rappeler, et là, je veux dire, tout le monde le sait, c'est que le premier livre de Sartre, qui lui permet d'avoir une gloire tout à fait instantanée, c'est un faux journal intime. C'est La Nausée. Bon, le faux journal intime de dans la bibliothèque de Bouville. Donc, je pense que la question est tout de suite beaucoup plus compliquée que simplement le refus de l'intime, que résume au fond assez bien, d'ailleurs, la dernière phrase de l'article sur Husserl, « Nous voici délivrés de Proust », parce qu'on a la conscience qui s'éclate vers le monde, etc. Mais bon, enfin, je tenais à dire ça, parce que la question de la vie, elle implique un peu d'intime tout de même, quelque part.
Jean-François Lettre.
Oui, non, mais c'est bien ce que j'ai essayé de montrer dans cette introduction, et c'est bien ce qu'on essaie de comprendre, me semble-t-il, tous, quand on travaille avec ardeur et affection, disons, sur les textes sartriens. C'est ce paradoxe, hein, ce paradoxe qui fait que dès La Nausée, on est face à un journal intime, le journal intime d'Antoine Roquentin, qui en même temps dit « je ne veux pas avoir des secrets comme une petite fille, tenir un journal comme un prêtre, un curé de campagne », et de La Nausée jusqu'à l'idée de la famille, cette question d'écrire la vie, écrire sa vie, ce sera le cœur, je crois, de l'entreprise sartrienne, d'autant qu'on a pu montrer aussi que même dans les romans, il y avait une large part de transposition.
Lui-même, d'ailleurs, dans les carnets de la drôle de guerre, fait des va-et-vient en permanence avec l'écriture de L'Âge de raison, et il dit, ça, je l'ai mis chez Mathieu Brunet, ça vient de moi. Enfin, lui-même donne toutes les clés, ou une partie des clés, sur la transposition permanente de son intimité avec Mille Guillemets et ses personnages des Chemins de la Liberté, qui apparemment sont le texte le moins intime de Sartre.
Thomas Clair.
Oui, il y a également un autre paradoxe sur lequel peut-être on n'insiste pas suffisamment, c'est le fait que, bien sûr, Sartre s'oppose à l'écriture de soi presque de façon esthétique et idéologique, mais d'un autre côté, il ne faut bien pas oublier que dans la doxa de l'éducation bourgeoise, et notamment de celle qu'il a reçue et de celle de sa classe, il ne faut pas parler de soi. Je crois, on le dit souvent trop peu, me semble-t-il, c'est que parler de soi ou écrire sur soi est mal vu, est une entreprise, finalement, on pourrait dire, qui est qui est une sorte de prise de parole qui est, disons, entourée d'une aura négative, en quelque sorte. Et je me demande si la force de Sartre ne réside pas aussi dans le fait que c'est un homme qui a toute sa vie adoré prendre la parole. Je crois que c'est quelque chose de très important, et ce qui expliquerait peut-être aussi le fait qu'il y ait une permanence de la dimension autobiographique chez Sartre un petit peu partout dans son œuvre, et aussi dans cette espèce de deal incroyable que sont les mots en 64, lorsque c'est un peu un texte qui est un peu isolé dans le champ littéraire, puisqu'il fait une autobiographie à un moment donné où le champ littéraire conteste cette autobiographie. Cette notion de prise de parole me semble très importante chez Sartre.
Oui, allez-y, Juliette Simon.
Oui, bon, moi je suis, dans ce volume, je suis philosophe. Hein, Jean-François et Gilles Philippe sont littéraires. Donc je crois que dans ce refus de l'intime, il y a aussi quelque chose qui tient à la formation philosophique de Sartre. Il a été profondément révolté et communisant d'ailleurs par sa formation universitaire, par l'idéalisme de Braunschweig. Et le fait que la phénoménologie lui soit apparue comme un miracle dans l'article dont Jean-Pierre Salgas vient de parler, c'est aussi ça, quand il dit « l'envoyé du ciel, c'était Raymond Aron qui nous a appris qu'on pouvait philosopher à propos d'un bec de gaz, c'était... ou d'un verre de bière, suivant les versions. Et ben voilà, c'était l'idée, ce qui importe, c'est le monde. Ma subjectivité n'importe que pour autant qu'elle est traversée par le monde, traversée par l'histoire. Et en fait, ce sont des convulsions du monde qui, chaque fois, lui ont donné le souffle pour une séquence autobiographique.
Alors, du point de vue des convulsions du monde, et pour me réconcilier avec Jean-François Louette sur la question Trotsky-Staline, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que les mots, et il le souligne dans ce texte tout à fait extraordinaire que pour ma part je ne connaissais pas, qui est la préface qu'il donne aux mots à Novy Mir, la revue soviétique, je veux dire, les mots, il raconte sa vie, il le dit lui-même, finalement, entre la première révolution russe, 1905, et 1917. Donc il inscrit ce texte fort peu historique, à ceci près que la question de l'Alsace-Lorraine est au cœur du texte, il l'inscrit dans cet double événement. Il a cette phrase totalement inouïe à l'adresse du peuple russe, quand on pense que c'est une phrase écrite en 1964, parce que la même 30 ans auparavant eût été normale, il dit « votre révolution a été le grand événement de notre vie ». Bon, et c'est la préface, enfin, oui, qu'il donne aux mots dans la publication dans Novy Mir. Voilà.
Vous voulez réagir là-dessus, Jean-François Louette ?
Oui, ce qui me... Enfin, ça, c'est un nouveau paradoxe des mots. C'est-à-dire le décalage entre, disons, le discours d'accompagnement de Sartre, qui est un discours qui insiste toujours sur la portée politique du livre, hein, et puis le texte lui-même, dans lequel cette portée politique n'est pas évidente. Bon, j'ai essayé de montrer, les lecteurs apprécieront eux-mêmes, hein, qu'on pouvait réduire dans une certaine mesure ce paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a une véritable portée politique du livre, et en particulier que cette portée politique, elle passe par quelque chose qui en effet est tout à fait singulier, c'est-à-dire le fait de donner une signification forte à sa propre date de naissance. Après tout, sa date de naissance 1905, Sartre, pas plus que personne ne peut la choisir. Hein. Sartre ne l'a pas choisi.
Le siècle avait 2 ans,
en voilà, fait. Exactement. Mais lui, il l'a choisi comme il est dit d'ailleurs dans Lettres et Néants, on peut toujours donner un sens à son passé et à ce passé, à cet élément de son passé qui est la date de naissance 1905. Il donne un sens, à savoir, voilà, c'est une borne, hein, c'est la première révolution soviétique, et je décide de lui faire correspondre l'autre borne, 1917, date à laquelle j'arrête mon livre, si bien que ma vie devient une espèce de miroir de concentration de cette période décisive pour toute une génération.
Autre paradoxe des mots, le texte est censé donner congé à la mythologie littéraire sur laquelle il a été élevé. Or, en le relisant, il me semble qu'on voit à quel point c'est une écriture délibérément surveillée, littéraire, très littéraire, avec des apophthegmes, des maximes, des formules, des alexandrins blancs. Enfin, c'est extrêmement littéraire pour un texte qui prétend congédier le légendaire littéraire, non ?
Oui, non, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ça fait aussi partie des paradoxes. Mais alors, celui-là, Sartre l'a énoncé tout à fait clairement. C'est-à-dire, un adieu à la littérature doit être fait dans le style, écrit dans le style le plus beau possible. Par exemple, mais ça sert du coup des tas de stratégies un peu duplices et qui sont bien plaisantes à suivre et en même temps, je crois, très efficaces sur le lecteur. Par exemple, la question de la poésie. Hein, vous voyez la question de la poésie. Oui, il y a des vers blancs dans les mots et ça correspond dans l'esprit.
Il y a des formules presque hugoliennes, des oppositions. Ouais. Comme
les
ça.
Livres ont été mes oiseaux et mes nids, par exemple.
Oui, oui, oui. Et des très belles choses.
Mais hugolien. Oui. Hugolien pour hugolien. Moi, j'ai eu le sentiment en permanence, alors c'est peut-être par goût personnel, mais que les mots étaient hantés par deux écrivains et tentaient quelque chose comme une synthèse des deux qui sont contemporains ou antérieurs à Hugo, qui sont Chateaubriand et Stendhal. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé en relisant les mots, c'est qu'il y a du Chateaubriand en permanence, c'est-à-dire toute la tactique qui consiste à dire « quand je meurs, je nais, quand je nais, je meurs ».
Le berceau et la tombe
de Chateaubriand. Et d'un autre côté, bon, on sait le goût de Sartre pour Stendhal. Je ne sais pas, sincèrement, mais Thomas Clair, vous devez le savoir, si la vie de Henri Brulard était très bien connue de Sartre à ce moment-là. Bon,
mais ce n'était pas apprécié.
Il parle énormément dans les carnets de la Drôle de Guerre, il parle beaucoup du Stendhal Chartreuse. Romancier. Oui. Il s'éblouit des 60 premières pages de la Chartreuse, etc. Bon, on sait qu'il voulait être Stendhal, Spinoza, etc. Bon, tout ça est très connu, mais la vie d'Henri Brulard, je ne sais pas ce qu'il en savait. Reste que les analogies entre les mots et la vie d'Henri Brulard sont assez fortes, à commencer par la figure de la mère, bon, avec qui il, sinon couche du moins d'or, à côté, etc. Bon, et donc j'ai eu le sentiment tout le temps que derrière Hugo, derrière toute une série de grands modèles, il y avait un jeu avec ces figures absolument antithétiques, évidemment, que sont Chateaubriand, oui, non, non, oui, enfin le balancement permanent, et puis l'immédiateté stendhalienne, enfin la fraîcheur absolue de Stendhal.
Vous êtes d'accord, voilà. Jean-François Houlette ?
Que oui. Ça hantait les mots beaucoup, mais les deux.
Oui, je crois que vous avez raison. Chateaubriand, Stendhal, on pourrait dire Hugo aussi, mais
pour ce qui est des
modèles autobiographiques, ce sont surtout Chateaubriand et Hugo, mais Chateaubriand et Stendhal. Mais pour ce qui est de Stendhal, en tout cas, ce qui est frappant, ce qui est dommage finalement, c'est que Sartre avait écrit sur Stendhal hein, dans les carnets de la Drôle de Guerre, et notamment malheureusement dans un carnet perdu. Et on ne peut qu'espérer un jour, je ne sais pas si ça sera possible, mais le voir réapparaître comme par miracle, et on verra ce que Sartre pensait vraiment de la vie d'Henri Brulard, même si on peut imaginer que, comme il était dans un processus, bon, l'écriture des carnets, un processus de différenciation, il a peut-être été sévère avec la vie d'Henri Brulard, mais au fond, il adorait tout Stendhal. Ça a été une de ses grandes passions de lecture.
Alors, sur sa formation, sur les livres, etc., on va entendre un extrait lu par Michel Bouquet des mots, puisque Gallimard vient de publier simultanément la lecture in extenso des mots par Michel Bouquet en CD.
J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhirs. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu mille fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter, en regagnant son fauteuil par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture et je n'en ai jamais vu plus de deux à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries de Nouvel An parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. Vifs, blancs, presque neufs, ils servaient de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre ». Au retour, après avoir ôté son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon et je me demandais mystifié sont-ce les mêmes. Elle les couvrait soigneusement, puis, après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre dans sa bergère à oreillettes, chaussait ses bicycles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire, je pensais à la messe, à la mort, au sommeil, je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les deux femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées, c'étaient des intruses, et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur exclusivement féminin. Le dimanche, il entrait par désœuvrement dans la chambre de sa femme et se plantait devant elle sans rien trouver à lui dire. Tout le monde le regardait, il tambourinait contre la vitre, puis, à bout d'invention, se retournait vers Louise et lui ôtait des mains son roman. « Charles, s'écriait-elle furieuse, tu vas me perdre ma page. » Déjà les sourcils hauts, il lisait brusquement, son index frappait la brochure. « Comprends pas. »« Mais comment veux-tu comprendre ?» disait ma grand-mère. « Tu lis par-dedans. » Il finissait par jeter le livre sur la table et s'en allait en haussant les épaules.
C'était Michel Bouquet, un des passages les plus célèbres des mots, donc la lecture du petit Sartre avant qu'il ne sache lire. Je me disais qu'une des choses les plus frappantes des mots aussi, c'était ce récit de l'inculcation d'une religion. Littéraire, d'un culte, avec un vocabulaire incroyable de saints, de prophètes, de prêtres, jusqu'à la fin, puisque cette fameuse formule dans la conclusion « j'ai désinvesti mais je n'ai pas défroqué » fait encore appel à ce vocabulaire religieux. Ce qu'on lui inculque, c'est la religion des livres.
Oui, la religion des livres, le sacré déposé dans la bibliothèque. Ouais. Bon, il y a toute une tradition finalement qui articule l'autobiographie et le sacré, hein, depuis Saint-Augustin, en passant par Renan. Je crois qu'un des points de repère d'ailleurs pour Sartre en écrivant les mots, c'est Renan, les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Puisque ce livre de Renan dit finalement « j'ai défroqué, mais je n'ai pas désinvesti ». Il dit le contraire, hein, c'est-à-dire « j'ai abandonné la carrière de prêtre, mais j'ai déplacé le sacré et je l'ai placé dans la culture ». Sartre veut faire le mouvement inverse, renoncer à la religion de la littérature, même si pour nous, au fond, on peut dire que les mots restent une cathédrale littéraire.
Oui, d'autant plus que
d'autant plus que
le mot foi vient dans les toutes dernières lignes du texte. C'est-à-dire, finalement, c'est un livre qui est entièrement dirigé contre l'idée de substituer la religion à la littérature à la religion, mais le mot foi apparaît. Hein, ma seule affaire était de me sauver par le travail et la foi. Il y a là une espèce, encore une fois, de paradoxe qui donne toute la vitalité
et
du livre.
La question du salut.
Voilà, exactement. Oui. Au fond, même si Sartre veut s'en prendre à cette idéologie de la sacralisation de la littérature, et c'est là que c'est pour moi très beau, c'est qu'il ne peut pas véritablement le faire. Il n'est pas... Finalement, la littérature, de certaine manière, est plus fort que soi. Et c'est ça qui me semble très très beau, puisque la littérature, de ce point de vue-là, est subversive. C'est-à-dire, elle montre bien, justement, ce spectacle d'un être entièrement littéraire est un spectacle donné pour le lecteur. Mais,
voilà. Juliette Simon.
Oui, je vais dans le même sens que vous. J'ai l'impression que cet adieu à la littérature, claironné, trompété, n'en a pas du tout été un, en vérité. Puisqu'on sait que par la suite, Sartre a écrit un livre de 3000 pages sur Flaubert, vraiment sur un grand écrivain. Et pendant ce temps-là, ses jeunes amis Mao lui disaient « Mais enfin, Sartre, qu'est-ce que tu fais à écrire ce livre pour des bourgeois? Tu ferais mieux ou bien de ne plus écrire, ou bien d'écrire un grand roman populaire. » Et Sartre s'est tenu contre vents et marées à son Flaubert. Il s'est séquestré. Et il y a ce petit livre, On a raison de se révolter, avec Gavi et Victor, qui est assez drôle, complètement épuisé, mais très drôle, où on le voit résister à ses interlocuteurs Mao. Et il leur dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille avec vous dans les manifs? Mais je ne peux même plus marcher, je suis trop vieux, je ne veux pas qu'on me transforme en potiche, mon métier c'est d'écrire ». Bon, ce n'est plus un mandat, c'est un métier, mais il l'a fait jusqu'à perdre la vue.
Il y a aussi une chose extraordinaire dans le film Sartre par lui. Dans le film Sartre par lui-même, à deux reprises, il fait un lapsus. Il dit on m'a attribué le prix Goncourt, le prix Nobel. C'est extraordinaire.
C'est plutôt l'inverse en général.
Voilà, exactement. Ouais. Et à deux fois, qu'il est véritablement pénétré en quelque sorte par cette idée plus forte que lui d'être un des grands maîtres de la littérature mondiale.
Oui, enfin, il ne faut pas... ce qui est intéressant dans le cas de Sartre, me semble-t-il, c'est de constamment garder les deux côtés de la médaille. Hein. C'est-à-dire, il faut jamais, je crois, il ne faut jamais dire en fait, Sartre aime exclusivement la littérature et le reste ne lui importe pas. Non, ce qui compte, c'est le déchirement intime. Et c'est ce déchirement-là qui fait qu'il y a une formidable énergie dans cette œuvre. Je crois que c'est la grande qualité, enfin, qui apparaît, je dirais, presque physiquement quand on lit les mots. Et l'énergie vient du déchirement. Ça, c'est fondamental.
Mais est-ce que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les carnets de la drôle de guerre qui, dans votre volume, viennent après les mots, sont une self-fulfilling prophecy ? C'est-à-dire, moi, ce qui m'agace beaucoup dans les carnets, c'est justement cette façon de poser au grand homme, de se voir comme un grand écrivain, de dire qu'il imite Stendhal tout en l'imitant et en le disant, de dire que c'est une guerre à la Kafka, de lire le journal de Gide, de se comparer, etc. Il me semble que les carnets... construit sa statue, qu'il se voit comme un grand homme en 39-40, et donc qu'il prophétise son existence d'écrivain qu'il fera dans les mots.
Oui, il la prophétise, mais en même temps, il est totalement ironique, comme il le sera déjà dans les mots. En fait, Sartre est un homme qui, déjà très jeune homme, n'arrêtait pas de se dire adieu à lui-même. En fait, quand il commence à dire dans les carnets, il dit tout le temps « je ne suis plus celui que j'étais hier », il y a un mouvement d'autocritique permanent, et je suis d'accord avec Jean-François Louette, c'est cette autocritique permanente qui est très allègre dans les carnets, qui donne la force au livre.
Cela dit, j'aime assez votre remarque. C'est, ce système permanent de comparaison avec des grands écrivains...
Tout le temps. Il ne se compare pas à ses compagnons. Il se compare à Gide, à Larbeau...
Oui, c'est vrai. Avec ses compagnons, il a une relation qui est tantôt tendre. Il n'y a pas de méchanceté, mais tantôt satirique. Une espèce de satire sans méchanceté, parce qu'il veut aussi faire rire. Hein. Il veut faire rire Beauvoir, tous ceux qui liront.
Ouais, ouais.
Mais ce qui me frappe quand même à propos de ce que vous disiez, c'est que je crois qu'il y a une posture prémortelle, tout simplement. Hein. C'est un moment de bilan, c'est un moment où Sartre se dit peut-être que ma vie ne va pas durer si longtemps que ça. La guerre éclate, doit éclater d'un jour à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement un peu qui n'est pas dépourvu d'ironie, c'est certain, mais un mouvement réel pour, par une espèce de bond, se placer au milieu du panthéon, des grands écrivains.
Disons que quand on les lit après les mots, on voit que la mythologie de l'écrivain qu'il dénonce dans les mots est extrêmement présente dans les carnets. Voilà,
oui.
C'est ça que je...
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Jean-Pierre est présent.
Je suis tout à fait d'accord avec Célie Pascal, à ceci près que il faut quand même rappeler que les carnets n'ont été connus que de façon posthume et que les carnets, sont écrits. Alors ça, c'est très très intéressant. D'ailleurs, sont écrits pour 4 ou 5 personnes. Sont écrits pour Simone de Beauvoir, sont écrits pour Vanda et Olga Kojakiewicz et pour Bianca Bionenfeld. C'est-à-dire, bon,
c'est peut-être femme.
Oui, c'est femme, c'est la femme, le castor, et puis 3 autres femmes qu'il aime. Bon, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Et pour lui-même aussi, parce qu'il écrit pour lui-même à la fois pour avoir écrit ça, et puis il se relit de temps en temps, il revient, il disait « j'ai écrit ça hier », etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous disiez eût été absolument...
Je vous remercie, Jean-Pascal Gas.
Eût été absolument l'intégralité du problème si ces carnets avaient été publiés après la guerre, par exemple. Or, il dit précisément dans les carnets qu'il voudrait qu'ils soient publiés, parce qu'il pense qu'ils seront publiés, il sait, puisqu'il est un grand homme.
C'est pas une question de publication, c'est une question de posture.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est d'autant plus... Je vais dans votre sens, paradoxalement. C'est-à-dire, la posture est encore plus étonnante puisque c'est une posture pour soi, clandestine.
Oui.
J'allais quasiment dire onaniste. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui va livrer.
Mais si, il ne cesse de dire que c'est un journal public.
Il dit,
je suis tout entier public, je n'ai pas de privé. Bon. Mais d'un autre côté, vous conviendrez que 5 femmes, c'est une petite société de lecture.
Thomas Claire.
4 femmes.
C'est un peu tout le paradoxe, puisque finalement, il n'y a pas de journal intime, en réalité. Le journal est toujours extime, comme Jean-François Louet le montre très bien. C'est que déjà, Sartre se vit déjà comme écrivain, et même s'il ne tient pas à la publication de ses carnets, il sait bien qu'un jour ou l'autre, ils seront sans doute divulgués au public. Il y a donc cette dimension qui me semble, qui me semble très importante. Et donc, du coup, aussi, toute la dialectique dans les carnets est assez passionnante, parce qu'il y a une sorte de débat intérieur entre des discussions philosophiques et puis ce contexte de la troupe, en quelque sorte, qui crée aussi une sorte de pensée très, très dynamique, toujours pour le lecteur. Ce qui est frappant, c'est la vitalité de Sartre, je trouve. Finalement, je ne sais pas comment c'est un auteur qui peut être transmis. Bon, pour les gens de ma génération, c'est un auteur un peu problématique pour différentes raisons, notamment le clivage entre la dimension politique, je trouve, et la lucidité extraordinaire personnelle et, disons, ce que j'appellerais un certain aveuglement politique. Mais il y a quand même quelque chose de très vitaliste qui est la meilleure façon, je pense, de transmettre Sartre.
Jean-François Louette.
Oui, cette vitalité, elle tient à nouveau à une contradiction, à un déchirement. C'est-à-dire, on disait, toutes ces références à la littérature, c'est une manière de s'inscrire dans une espèce de panthéon privé, portatif, provisoire, sous l'œil de la guerre. Mais en même temps, ça vient tout simplement du fait que ces gens-là, Sartre, Beauvoir, vivent constamment dans et pour la littérature. Donc ce sont des références qui sont pas seulement des postures, à mon avis, c'est une manière naturelle pour eux de penser le monde. Alors il y a ça d'un côté, ils savent qu'ils sont écrivains, ce sont, comme il le dit dans les mots, des camarades, des gens qui traitent en labadins, le plus familièrement possible. Et puis d'un autre côté, comme vous le disiez à l'instant, il y a la troupe, le monde étrange qui, lui, n'est pas littéraire. Et les carnets sont aussi le lieu où Sartre essaie de s'ouvrir vers cette autre humanité non littérarisée, disons.
Mais ce qui me frappait dans la lecture des carnets était... moi, je viens de finir le journal fictif de Daniel Cordier, donc sa vie de résistant entre 40 et 44. Et quand on lit les carnets de Sartre, on se dit, mais il n'y a pas une réflexion clairvoyante sur la situation politique réelle. C'est-à-dire qu'il est dans son petit monde, alors il pense l'homme de troupe, les militaires, la vie, etc. La vie, l'homme de troupe. Mais jamais ce qui s'est passé en Allemagne, le nazisme, pourquoi il y a la guerre. Jamais, jamais. C'est-à-dire que c'est très, très étrange. Il n'y a aucune clairvoyance politique et même aucun intérêt
ça
politique.
Ça me paraît tout à fait excessif. Il parle de la guerre allemande. Je veux dire, il parle du fait que les Allemands l'ont ménagé et préparé cette guerre. Il parle aussi du fait que les Français l'ont laissé advenir par leur propre pacifisme. Ah si, il se reproche à lui.
À la fin du carnet 1, il examine, j'avais noté page 257 et suivante, il examine longuement toutes les justifications des buts de guerre qui peuvent être données par les belligérants.
Bien sûr. Alors disons que ce n'est pas politique.
Il parle de la situation de la Pologne.
Ce n'est pas politique, c'est jamais politique.
Non, c'est stratégique.
C'est stratégique.
Non, non.
Oui,
et quand même, il est totalement... Ah si, je crois. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Et pourquoi est-il tant obsédé?
Et il est très peu clairvoyant sur la situation.
Mais qu'il ne soit pas
rétrospectivement
clairvoyant, j'entends bien. Mais pourquoi, même dans le dernier des carnets, il s'intéresse tant à la biographie de Guillaume II? Il écrit quasiment un mini Flaubert ou un mini Jeunesse sur Guillaume II à travers la réécriture de la biographie.
Parce que c'est le regard de surplomb sur l'histoire. Ce n'est pas du tout le regard du politique.
C'est le grand homme. Mais d'un autre côté, ce n'est pas Winston Churchill, c'est Guillaume II, c'est-à-dire l'ancêtre du régime qui est en train de combattre la France.
C'est bien ce que je dis.
Donc. Oui, non, je...
Non, franchement, c'est pas sérieux, ça, son analyse politique.
C'est curieux, parce que c'est à la fois le regard de surplomb et à la fois d'être au milieu des choses et donc d'être trop collé sur les choses. Ça me fait penser à Léris aussi, qui était extraordinairement lucide sur un plan personnel et qui, par exemple, lorsqu'il écrit son journal de Chine, s'exalte.
Pourquoi le défendre à tout prix? Il se trouve qu'il n'est pas forcément clairvoyant.
Non, je pense qu'il n'est pas du tout clairvoyant.
Il n'est peut-être pas clairvoyant, mais il est absolument intéressé par ce qui arrive. Moi, le travail que j'ai fait, c'est relire en fait toutes ces lectures. Et il y a énormément de ces lectures qui sont des livres d'histoire. Il essaie de comprendre ce qu'est l'Allemagne, pourquoi est-ce que cette guerre est arrivée. Il essaie de comprendre la guerre précédente. Il n'est pas aujourd'hui, Sartre, il est dans la guerre. C'est pas si clair. C'est plutôt vous qui êtes en position de surplomb, de survol, c'est pas lui. Lui, il essaye de comprendre avec ses moyens de bourgeois, d'intellectuel, et ses moyens, ce sont des livres.
Pourquoi Cordier comprend si bien ce qui se passe et pas Sartre ?
Il essaie de comprendre notamment par analogie, c'est-à-dire par analogie en comparant la guerre de 39-45 et la guerre de 14-18.
Oui, c'est un point de vue d'intellectuel, de prof, d'historien, tranquille dans son bureau.
Le journal de Gide qui lit et le journal de Gide est pendant la Première Guerre mondiale. Bon, voilà. Et effectivement, il s'y réfère en ayant conscience de la symétrie. Mais je suis totalement stupéfait parce que le fait que vous lui reprochez de ne pas être clairvoyant, oui, il n'est pas clairvoyant comme Jean Moulin et Daniel Cordier, d'accord, comme le général de Gaulle ou comme bon, mais je viens par là, il a au contraire, enfin, il décrit là où il est en situation, pour parler comme lui, je veux dire, qu'est-ce que c'est que d'être un homme de troupe, etc., qu'est-ce que c'est que faire la guerre, et à tous les niveaux. D'ailleurs, il esquisse en permanence des choses qu'on retrouvera dans la critique de la raison dialectique, pas seulement dans L'être et le néant, il y a des dégagements qui sont la critique de la raison dialectique sur justement l'être ensemble dans la guerre, etc. Bon, et je vois pas du tout, oui, au niveau de la géopolitique, il n'y comprend rien.
Comme dans les années 50, au moment où il écrit
qui,
les mots.
Qui je veux dire, bon, alors la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, au fond, on pourrait par contre lui reprocher. Quand il fait dans le dernier carnet le récit très très passionnant de sa vie d'étudiant à Berlin où il a été étudié au Husserl et Heidegger, bon, on lui a souvent reproché. Effectivement, il n'a pas vu ce qui se passait à Berlin dans ces années-là.
Il n'a pas vu grand-chose.
Ouais. Ben, il a vu ce qu'il. Oui, là effectivement, bon, voilà. Bon, et alors on pourrait lui reprocher aussi un manque de réflexion sur le destin de Nizan, parce que quand même, et dans les mots et dans les carnets d'ordre de guerre, enfin, il insiste toujours sur le fait que Nizan était son double, que bon, la célèbre scène où Léon Brunswick les confond, reproche à Sartre les écrits de Nizan, etc. Bon, et ce double, cet homme qu'il a aimé fondamentalement, a vécu un destin lié au pacte germano-soviétique qu'il a su dénoncer, et puis donc sa mort à la guerre, etc. Bon, qui n'est pas advenu, je crois, au moment des carnets, mais dont Sartre n'est pas au courant, mais bon, il pourrait réfléchir à tout ça. Bon, c'est vrai qu'il
a réfléchi, enfin. Bon. Il a fait une préface à Aden Arabi.
Je parle des carnets. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il n'est pas encore mort. Je parlais de Nizan et le pacte germano-soviétique.
Là, ça, il en a beaucoup parlé après.
Non, mais moi, j'allais dans votre sens.
Il y a d'une part le portrait de Nizan qui est, alors indépendamment de toute autre chose, un très beau texte quand même. Pas seulement parce qu'il est affectif.
Donc préface à Aden Arabi.
Oui, la préface à Aden Arabi, oui. Mais faut jamais oublier non plus que la pièce Les mains sales, en 1948, est une pièce qui est une profonde réflexion sur le sort de Nizan, hein. C'est-à-dire sur le sort de quelqu'un qui a effectivement quitté le Parti communiste à un moment où on ne devait pas quitter le Parti communiste, où personne ne quittait le Parti communiste que les pieds devant, et aussi quelqu'un qui a vu son passé falsifié par le Parti communiste, ce qui est bien le sort d'Heureur dans la pièce Les mains sales. Donc on ne peut pas du tout dire que... Alors, que Sartre ne réagisse pas à la mort de Nizan au moment où Nizan n'est pas encore mort, ça c'est certain. Que d'autre part, il réagisse...
J'allais dans votre sens, si vous voulez.
Non mais très bien, si on est d'accord, c'est parfait. Totalement
d'accord. Juliette Simon, vous vouliez réagir là-dessus?
Je dis avant les mots, il a quand même écrit la préface à Aden Arabi.
Peut-être sur la coupure que vous commentez, on dit toujours les carnets, c'est la coupure du premier Sartre et du deuxième Sartre. Vous dites, elle n'est pas là où on croit finalement. C'est pas le Sartre de la liberté puis le Sartre de l'engagement, c'est plus compliqué que ça.
Je crois qu'il a découvert en même temps liberté et engagement. Je pense que dans sa jeunesse phénoménologique, il avait une liberté qui était plutôt une libération à l'égard d'un carcan bourgeois. C'était déjà dans la nausée. Liberté qu'il a incarnée à travers la phénoménologie. Mais la liberté s'affrontant au monde, emprise sur des situations, etc., ça, je pense que ça s'est produit pendant la guerre. Mmh. Il a découvert à la fois le néant, qui est la prémisse de l'être et le néant. Hein. Il y a toute une partie philosophique dans les carnets. Oui, il y a des pages qui se retrouvent dans l'être et le néant.
Ah oui. Donc, y compris l'histoire de Pierre qui est absent. Il y a même dans le détail des choses qui sont... C'est déjà l'être et le néant.
Il découvre la liberté sous forme de néant parce qu'il n'avait pas cet outil. Et puis, il découvre l'engagement parce qu'il découvre qu'il est embarqué dans la guerre, quoi, et qui ne peut pas nier la guerre alors qu'il arrive en guerre avec tout un bagage qui est celui d'Alain. En fait, on ne se rend pas compte quand on n'a pas lu Mars ou La guerre jugée d'Alain, mais tout le début du premier carnet, c'est presque une paraphrase du livre d'Alain. Il arrive avec ce bagage pacifiste et puis il se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout, qu'il est embarqué dans la guerre, que la refuser, c'est un mot. Donc il doit faire avec la guerre et c'est à ce moment-là qu'il tourne à l'analyse heideggerienne, qu'il se met à relire Heidegger et qu'il se dit « voilà, je suis dans la guerre », comme Heidegger dit « je suis dans le monde ».
Et en même temps, vous commentez beaucoup le fait qu'il écrive ce journal et journal de rien.
Oui, parce qu'il ne fait pas la guerre, il est en guerre et on ne se bat pas. Donc finalement, il dit ce journal est journal de rien, c'est les anecdotes que que je raconte sur mes acolytes, qui sont d'ailleurs merveilleuses en général. Hein, c'est des petites pièces de théâtre, des petites comédies hilarantes.
Mais ce rien n'est pas le rien de Flaubert, par exemple, écrire un roman sur rien.
Ah non,
ou bah, n'est pas le rien du nouveau roman non plus. C'est un rien très étrange. C'est un rien le pas important de la philosophie, normalement. Ce que la philosophie ne commande pas d'ordinaire.
La contingence, il l'a déjà. Oui. Il l'a depuis longtemps. Ce qu'il va découvrir, c'est le néant comme activité. C'est un hyperactif. Il dit tout de suite, il écrit tout de suite à Simone de Beauvoir. Moi, je peux supporter ça parce que la guerre m'intéresse. Donc je vais écrire, je vais mettre ça à profit, je vais comprendre la guerre, je vais terminer mon roman. Donc c'est une espèce de liberté hyperactive. À côté de ça, on voit justement Nisan en guerre qui, lui, est complètement déprimé et qui écrit... Moi, je ne comprends pas comment Sartre continue à écrire. Il écrit à sa femme, je ne comprends pas. Ces écrivains qui continuent à travailler alors qu'il y a la guerre.
C'est ce que j'appelais l'intellectualisme, c'est-à-dire une sorte de façon de dire « je vais comprendre la guerre ». C'est-à-dire aller à la guerre, c'est essayer de la comprendre, la connaissance, c'est
Mais ça lui a quand même permis d'écrire « L'être et le néant » qui a été reçu par certains comme un livre de résistance. Donc, à chacun ses moyens. Sartre, ce n'était pas le fusil, c'est évident.
Ouais. Même sur l'argent, il s'analyse lui-même comme un intellectuel. Il dit « je n'ai jamais vu le rapport entre le métier et l'argent, qui est typiquement un rapport intellectualiste à l'argent.
C'est un texte tout à fait surprenant, à la fin des carnets, où il décrit son rapport à l'argent tel qu'on le connaît chez le Sartre ultérieur, c'est-à-dire le côté rien dans les mains, rien dans les poches, ne possédant rien, donnant l'argent d'une générosité démentielle, etc. Mais il fait déjà cette description en 1939-1940. Ça m'a totalement... c'est un texte magnifique.
Il se décrit lui-même dans je ne sais plus quel texte, où il dit « je suis un pur être abstrait, je suis le produit du capitalisme, du parlementarisme.
C'est
dans les carnets, il se décrit comme celui dont les nazis voudraient finalement l'élimination, c'est-à-dire l'être purement abstrait, l'être purement le triple produit du parlementarisme, du fonctionnarisme. Voilà, c'est un très beau texte là où il analyse une espèce d'être comme ça totalement planant un peu au-dessus des hommes, d'une certaine façon.
Chauve-Soulouette.
Non, je me demande toujours ce que c'est que l'intellectualisme. C'est-à-dire, c'est difficile de... Moi, j'ai un point de comparaison qui est le journal de Drieu-La Rochelle. Évidemment, c'est un point de comparaison idéologiquement suspect, je l'admets, même si Drieu est un écrivain très intéressant. Et alors, le vrai point de vue de Survol, on le voit là, quand même. On le voit dans le journal de Drieu-La Rochelle, qui est tout entier livré, consacré à des espèces de rêveries géopolitiques sur ce que veut l'URSS, ce que fait l'Allemagne, mais on est vraiment dans les très hautes sphères et on a l'impression d'être totalement déconnecté de ce qui se passe. Je dois dire qu'il y a une espèce de forme d'humilité là, de Sartre qui se dit « bon sang, j'y comprends pas grand-chose, il faut que je lise, il faut que j'apprenne ». Ça m'est plutôt sympathique, je dois dire, cette humilité.
Oui, il est en recherche.
Il cherche.
Le journal Le Drieu est terriblement morbide.
Il se fait envoyer des livres par le Castor.
Il se fait envoyer des livres par le Castor tout le temps. Et justement, à propos de ce dont on est en train de parler, il lit à un moment, il lit le journal intime de Eugène Dabit, qui est un livre que je connaissais pas du tout, que j'ai lu pour la circonstance. Et voilà le journal d'un homme éminemment conscient, lui par contre, de la montée du fascisme. Et il se lamente, Eugène Dabit, pendant tout son journal, il se dit ça va de mal en pis. En même temps, il a un espèce d'hédonisme qui fait qu'il passe 6 mois par an sur une plage espagnole. Mais bon, il se lamente, et puis il n'en sort rien, si vous voulez. Sartre ne se lamente pas du tout. Il bosse, pour dire les choses simplement,
il travaille,
en sort l'être et le néant. Donc on peut dire qu'il était moins lucide.
Et puis la continuation des chemins de la liberté, parce qu'il travaille à l'âge de raison pendant tous les carnets de...
Oui, mais l'âge de raison, on ne peut pas dire que c'est pas un livre très engagé. Mais bon, l'être et le néant est quand même le résultat de ce que vous appelez son manque de clairvoyance. Alors que Dabit, il était hyper clairvoyant, mais rien n'en a résulté, sauf des lamentations, quoi.
Juste un mot à propos de l'être et le néant. Souvenons-nous toujours, les lecteurs y renvoient eux-mêmes, que dans l'être et le néant, il y a une page où Sartre développe l'exemple « restaurant juif, défense aux Ariens d'entrer ».
Sous
l'occupation. Restaurant juif, défense aux Aryens d'entrée. Bon, ça veut dire qu'il avait fait le pari que le censeur allemand ne lirait pas les 750 pages du livre. Mais voilà, donc c'est une théorie de la liberté en temps de guerre et c'est un livre dont il n'est pas difficile de montrer à quel point il est politiquement signifiant. Quoi. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est toujours une situation ambiguë que celle de Sartre parce que, évidemment, l'intellectualisme, il est réel et puis, bien sûr, il fonctionne comme une protection. Je crois que c'est une protection aussi. C'est très désagréable de changer brutalement comme ça de monde. Mais en même temps, c'est un intellectualisme ouvert vers ce dont il se protège. Voilà le paradoxe. C'est-à-dire ouvert vers ce monde qui est neuf, agressif, hostile, incompréhensible. Et en même temps, Sartre essaie de le saisir du moins mal qu'il peut. Quoi.
Et puis, il se dit chic, je vais avoir du temps pour travailler. Ah, c'est très étonnant. Oui, c'est ça. Donc, il travaille effectivement en impression. Ah, ses copains lui disent qu'il travaille 16 heures par jour, il a des problèmes d'yeux tellement il lit, il écrit.
Quand on voit les manuscrits de ses carnets, on comprend très bien pourquoi il a des problèmes d'yeux, parce que c'est des carnets voilà,
minuscules. Ah, il écrit tout petit.
Et c'est écrit tout petit. C'est terrible de vérifier le texte, le manuscrit, comme j'ai dû le faire. On a la tête explosée au bout de 4 heures.
Oui, à propos de ce que disait à l'instant Jean-François Lettre sur ce passage de Lettre et le Néant concernant l'interdiction aux Juifs d'entrer dans un restaurant, un des passages pour
non,
moi
mais
les
justement, justement c'est le contraire. C'est pas restaurant arien défense aux Juifs d'entrer, il forge l'exemple inverse.
Il forge un exemple.
Restaurant juif défense aux Aryens d'entrer.
D'accord. Enfin, cela dit, ça veut parler de la situation de l'occupation et de l'antisémitisme nazi. Ce que je veux dire, c'est que on a souvent reproché à Sartre, de façon à mon sens totalement justement pour le cours rétrospectif aussi, les réflexions sur la question juive en disant qu'il avait oublié, enfin en faisant du juif la simple projection du regard de l'autre, enfin le reflet dans le regard de l'autre, il a oublié qu'il y a une culture juive évidemment millénaire, etc. Et un des passages les plus étonnants de ce point de vue-là, c'est au début du carnet 5, c'est en vous écoutant que j'y pensais, le portrait qu'il fait de son copain, qui est l'un de ses copains de régiment, Peter, qui s'appelle en fait Peter Kowski, qui a coupé son nom pour faire plus simple, et il décrit les anecdotes que lui raconte Peter sur justement cette culture juive, cette vie juive, la vie tout court, enfin bon, qui inclut la culture et le bordel et tout ce qu'on veut, je veux dire, et c'est tout à fait, c'est quelques pages parmi les choses les plus surprenantes qu'on puisse lire dans les carnets de la drôle de guerre, et les plus inattendues quand on a l'image, justement, du Sartre qui ne découvrirait, parce que c'est l'image qui a été surtout post-mortem véhiculée, qu'à travers Pierre Victor, que peut-être les réflexions sur la question juive étaient un livre génial, mais qui manquait une grande partie de ce que l'on pouvait dire de la judéité au milieu du XXe siècle. Alors, ce portrait est très, 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 très surprenant.
Juliette Simon.
Oui, justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, et on s'aperçoit justement en lisant ce que Sartre lisait, il lit à ce moment-là une biographie de Henri Heine. Ouais. Et bon, comme pour les carnets perdus, en fait, on peut combler les trous par sa correspondance avec Simone de Beauvoir. Ils discutent beaucoup sur la condition juive à ce moment-là, parce qu'ils ont tous les deux lu le livre. Et la question du juif authentique, du juif inauthentique, elle est déjà là. Et tout est intriqué, sa relation avec Peter, dans le portrait dont vous parlez, sa relation avec Bianca. Bien sûr. Et Simone de Beauvoir est beaucoup plus du côté de l'universalisme que lui. Lui, il est précisément du côté...
Bianca, a posteriori, puisqu'elle avait fait un livre ces dernières années, en a donné plutôt une vision négative, si je puis dire, à savoir qu'il n'y comprenait pas grand-chose. Enfin,
ben, c'est pas vrai.
Non, mais justement...
Ça s'avère
pas vrai quand on lit le carnet 5 de la drôle de guerre, par exemple. Voilà.
Thomas Claire.
Oui, je regrette un peu justement, puisque là on parle beaucoup des discussions, par exemple, la dimension pour moi très importante aussi de Sartre, la dimension orale. Et je trouve un petit peu dommage que dans l'édition, il n'y ait pas ces textes magnifiques, je trouve, que sont politiques et autobiographies, enfin tous les entretiens. Alors vous en expliquez, mais je trouve un peu dommage parce que pour moi, Sartre est aussi un homme de la parole. Il n'est pas seulement, quoi qu'il s'en défende, enfin je ne sais pas où, en tout cas, mais c'est un homme qui quand même aussi est extrêmement persuasif par ce... Et donc c'est un homme pour moi déjà un petit peu des médias au sens positif du terme. forme. C'est-à-dire, il y a cette volonté quand même d'un certain prosélytisme et d'un certain goût pour la dialectique qui s'exprime parfaitement dans ces entretiens. Alors, je trouve un peu dommage que dans les textes autobiographiques, ça ne figure pas.
On a eu deux raisons de ne pas retenir ce que Philippe Lejeune a appelé l'autobiographie parlée. La première raison, c'est que en fait, on y avait songé, bien sûr, et on voulait donner notamment les entretiens de Sartre avec Simone de Beauvoir, qui datent de l'été 1974. Mais cela nous a été refusé par l'ayant droit de Simone de Beauvoir. Et alors, donc, d'une certaine manière, la pièce maîtresse de l'autobiographie parlée, on ne pouvait pas la reproduire. Dès lors, pourquoi donner les entours et pas le centre, vous voyez ? Bon, l'autre raison, c'est quand même que pour moi, il y a une grande différence entre Sartre écrivain et Sartre parlant. Vous vous souvenez de la phrase des mots, on parle dans sa propre langue, on écrit en langue étrangère.
Elle-même recopiée de Proust, probablement.
Oui, bien sûr. Et justement, il y a quelque chose de...
Qu'il avait rejeté, mais qu'il connaissait très très bien.
Il y a une difficulté toute particulière dans l'écriture que Sartre a voulu assumer et qui fait que les textes écrits ont une autre qualité. Bon, alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que même si on peut pas... si on peut le regretter, il y a donc de ce point de vue-là un relatif manque. N'oublions pas non plus qu'on a avouté aussi dans cette édition à la connaissance des textes sartriens, au sens où on donne des inédits. C'est important d'avoir des inédits, et notamment tous ces textes, le cahier Lutèce, où Sartre revient sur les carnets de la drôle de guerre. Je crois que, il y a une espèce d'équilibre qui se crée. On n'a pas l'autobiographie parlée, mais on a des inédits.
C'était par rapport à la question de la
transmission. Le cahier Lutèce est effectivement très passionnant, puisqu'on voit Sartre une dizaine d'années après relire les carnets de la drôle de guerre, et effectivement ça fait le relais entre les carnets de la drôle de guerre et les mots, et le relais aussi avec ces deux portraits dont on n'a pas parlé, qui sont les portraits donc de Nizan et de Merleau-Ponty, qui sont effectivement, et ça je pense que vous avez tout à fait raison, qui sont la suite des mots, au sens où ils racontent l'entre-deux-guerres. C'est dans le rapport avec son double Paul Nizan, et il raconte dans son rapport avec non pas son double mais son semblable Merleau-Ponty l'après 1945. Donc d'une certaine façon, si on met bout à bout la période 1905-1917, les mots, et puis la période, je dirais, 18-39, et puis la période 45-63, on a d'une certaine façon, on réarrive à réemboîter une sorte de biographie complète. Enfin, c'est me semble-t-il ce que vous avez tenté de faire.
Voilà. C'était ça la logique. C'était ça l'idée. C'était ça la logique. C'était créer une espèce de puzzle avec des pièces d'origine à la fois différentes, de statuts un peu différents, mais qu'on peut lire continuellement.
Le problème étant qu'on a tendance un petit peu, excusez-moi d'y revenir, à tirer Sartre vers le passé, et donc au sens où à construire un Sartre de l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse toujours, notamment dans le cas des écrivains progressistes, c'est leur transmission. Et c'est pour ça que je regrette un peu finalement cette habileté finalement de Sartre dans l'interview, c'est-à-dire dans le côté justement extrêmement moderne, on pourrait dire, de Sartre. Il me semble que parfois la perspective d'ajouter parfois la dimension très génétique finalement, parfois a tendance un petit peu à monumentaliser Sartre, à en faire vraiment un homme.
Il n'y a pas une dimension très génétique dans notre volume par rapport à d'autres volumes de la Pléiade. On a donné, je trouve, l'essentiel de ce qu'il y avait à donner touchant les avant-textes des mots, mais c'est la seule partie vraiment génétique du livre. Et pour force, par exemple, on n'a rien comme genèse fondamentale pour les carnets, puis ça a été écrit d'un seul coup. Moi, je dis aussi que les livres se transmettent, vous comprenez ? Il n'y a pas que les interviews qui se transmettent.
Non, bien entendu, mais il faut voir par rapport au lecteur moderne, c'est-à-dire que est-ce que le jeune lecteur qui veut découvrir Sartre, finalement, va s'intéresser à la genèse
J'espère que le jeune lecteur moderne qui veut découvrir Sartre lira les mots plutôt que de lire des articles de journalisme de Sartre.
Pour aller dans le sens de Thomas Clerc, mais tout à fait autrement, peut-être le reproche que je ferais à tout l'appareil critique absolument formidable que vous faites, c'est de faire comme si Sartre était tout seul dans le champ littéraire français. Or, je pense que la force... Non, je m'excuse.
Non,
53.
C'est la force de l'introduction au carnet, justement de redire pourquoi il rejette l'idéalisme, comment il travaille. C'est très,
d'accord.
Très
non,
bien
mais je pense,
posé,
par exemple, que il aurait peut-être été intéressant, mais je ne sais pas, de voir qu'entre 53 et 63, la période de jeunesse des mots, il se passe évidemment énormément de choses que je n'aurais pas la grossièreté de vous rappeler, à commencer par les gommes aussi en 53, ce n'est pas seulement Staline et Trotsky, etc., etc., les gommes de Robbe-Grillet, bon, le théâtre de Beckett dont vous êtes par ailleurs spécialiste aussi. Et tout ça, finalement, à mon avis, Sartre le connaît évidemment très très bien. Et les mots répondent aussi à cette nouvelle littérature qui advient à partir de 1953.
Vous avez tout à fait raison.
Oui, alors, sur la modernité, ouais, vous insistez.
Vous avez tout à fait raison. C'est aussi le degré zéro de l'écriture.
Vous avez tout à fait. Vous avez une année. Si vous posez une question, vous me laissez y répondre. Merci. Donc vous avez tout à fait raison, mais c'est une chose qui est dite explicitement dans la notice des mots. Hein. Et je reprends l'hypothèse de Geneviève Witt, selon laquelle les mots sont une manière de reprendre à son compte un type d'écriture que le nouveau roman a dans ces années-là fait connaître. Hein. Donc c'est une dans son livre. Qui est très bien d'ailleurs sur les mots publiés chez Belin en 2000 ans. Donc moi je trouve ça d'ailleurs très intéressant cette démonstration qu'elle a de la manière dont Sartre reprend l'écriture à la fois spiralée et en miroir autoréflexive de Rome Grillet et du nouveau roman. On a essayé de montrer comment les mots s'inscrivaient dans un champ littéraire. Non, j'ai pas l'impression qu'on ait voulu fermer le livre sur lui-même.
J'ai Timon.
Vous dites vous-même, c'est la oui. Note de, et plus que dans la préface globale que
dans
vous faites
la
au
notice
volume. La notice des mots qui n'est pas la préface globale que vous faites au volume sur la question de l'autobiographie chez Sartre. C'est ça que je veux dire.
Oui, par ailleurs, sur l'autobiographie orale, on vous a dit c'est un peu indépendant de notre volonté. Mais par ailleurs, on a essayé de la citer autant que possible. Moi, j'ai fait toutes les notes que je pouvais en reprenant des citations de ces interviews.
Oui, parce que je pense que même dans son écriture, il y a une dimension de bavardage supérieur chez Sartre. Un bavardage, je prends au sens de Pasolini, c'est-à-dire au sens où la littérature, il y a un flux quand même chez Sartre, ce qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que
Carnets de la Drôle de Guerre, oui, c'est vraiment un flux. Parce qu'il n'y a pas de. Quand on voit les manuscrits, il n'y a pas de rature. Donc il écrivait. C'est écrit. À toute vitesse et au fil de la plume.
Tout à fait. Donc la coupure écrit-orale, j'y crois pas trop, en fait, la coupure écrit-orale entre... Ouais.
Quand même, les mots est un texte formidablement écrit et travaillé pour être un texte écrit qui n'a rien à voir avec une improvisation ni écrite ni orale.
Je ne dis pas une improvisation, mais je trouve même que... mais il y a quand même, justement, cette... On peut presque le lire à voix haute aussi, les mots, d'ailleurs. On a vu un exemple il y a quelques minutes. Il y a quelque chose, justement, on est un peu emporté, comme ça, par une oralité extrêmement travaillée, hein, bien entendu. Ouais. Mais je trouve que Sartre, est un homme total.
C'est pas le même.
C'est un homme total.
Oui, non, le mot de flux, en tout cas, il convient pas du tout pour les mots. Hein, parce que c'est un livre, on le voit bien, c'est l'intérêt d'ailleurs des études génétiques, c'est qu'il y a une masse de manuscrits et il s'agit de resserrer, de contracter, hein, pas de laisser couler.
Flux, je pense au sens d'une espèce c'est presque un livre qu'on peut lire dans la continuité. Enfin, je voudrais dire un flux au sens d'une dynamique, quelque chose.
Dynamique, oui,
une dynamique. Il y a quelque chose d'une dynamique qui ne me semble pas complètement éloignée de la maîtrise verbale orale d'un Sartre. Enfin, de ce côté extrêmement justement, encore ce que je disais tout à l'heure sur cette prise de parole, mais qui est extrêmement travaillée, c'est un livre qui fait 120 pages en édition non Pléiade, si je puis dire. Il y a quelque chose aussi d'une espèce de c'est une autobiographie très particulière, c'est une autobiographie très concise par rapport au grand modèle autobiographique. Il y a quelque chose aussi comme ça, de cette sorte de petit livre très très dense, mais qui coule d'une certaine manière comme un torrent, enfin bon.
Voilà. Comme un torrent qui, je suis totalement d'accord avec vous, mais qui irait sur beaucoup de rochers. Enfin, je veux dire par là, toute la force et justement les différents niveaux. Le plaisir qu'on a à lire ou à relire les mots, c'est justement de voir les niveaux de langage, les fausses citations, les vraies citations, les jeux, Moi, personnellement, je ne suis pas passionné par Carl et Mamie, mais je suis passionné par effectivement tout ce qui se joue dans le langage, dans les mots.
Qui pose le problème de sa transmission, d'ailleurs, parce que Sartre est un être tellement littéraire, finalement, qu'on se demande justement si pour les jeunes générations, enfin, on voit comment ces écrivains sont totalement pénétrés, comme vous le disiez tout à l'heure, de cet horizon littéraire.
Le bonheur est là, quand même. Le bonheur de lecture est là.
Absolument. Mais du coup, ça pose
alors un peu... Alors que, me semble-t-il, les Carnets de la Drôle de Guerre, le bonheur est total et c'est là et pas là. Et c'est, pour moi, c'est le grand livre de ça. Mmh.